Salut Daniel Vermeil et toute l'équipe de là-bas si j'y suis. Et ben à la fin de ton émission, Daniel, tu dis que rassurez-vous, tu reviens lundi dans ton rôle de journaliste. Ben moi je voulais juste te dire que ce soir en sortant du travail, j'ai baigné une heure dans la poésie, la vraie poésie de radio. Des émissions comme moi j'aimerais en entendre plus souvent parce que c'est ça pour moi le vrai sens de la radio. C'est faire voyager aussi. Alors, des émissions comme ça, j'espère qu'il y en aura d'autres. Au revoir, c'était Carole de Rouen.
Et bonjour, Daniel Mermet. Ben, je voulais tout d'abord vous remercier pour toutes vos émissions qui sont vraiment superbes, surtout celles comme aujourd'hui où vous vous posez un petit peu dans vos voyages. Et en parlant de voyages, je voulais vous dire qu'à chaque fois que j'en fais, comme je suis malvoyante, j'emmène toujours un dictaphone avec moi et j'enregistre des sons, des mots, des images sonores qui me servent ensuite de photos souvenirs. Voilà. Et puis pour alimenter votre source, je vais vous chanter une petite chanson qui m'a été apprise par une de mes sœurs qui est partie vivre un an à Madagascar. Fatouyo, si la 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 yo, fatouyo, si la 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 yo. Fatou fai fai fatou, fatou clemente yo, fatouyo, si la 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 yo. L'essentiel est invisible pour les yeux, le petit prince. Voilà, c'était Élodie du Havre. Merci beaucoup, à bientôt.
Bonjour Daniel Mermet et toute l'équipe de là-bas si j'y suis. Mon nom c'est Jean-Élie, mon prénom Max. Je vous téléphone de Lyon. J'ai ma fille qui est arrivée pour être à l'école là, depuis la rentrée de septembre, avec un mal fou à se faire accepter. Nous sommes de la Martinique. Nous sommes noirs de peau. Là, elle n'entend rien, elle veut absolument retourner dans son pays. Ça me fait tout drôle. Et ça me fait penser à tous ces Français qui ont été obligés de quitter le Cameroun, la Côte d'Ivoire, j'en sais rien. Voilà, elle va retourner dans son pays, pas parce qu'elle a été menacée de mort, pas parce qu'il y a des mitraillettes sous sa fenêtre le soir, tout simplement parce qu'elle est noire en France, mais elle est martiniquaise. Salut.
Ben, ça correspond un petit peu à notre sujet d'aujourd'hui, ça, cette histoire, ce message de cet auditeur, puisqu'on va se balader en Corse avec Dila Tebi, et aujourd'hui, ben actuellement, la Corse est synonyme de racisme. Alors bien sûr, on ne dira pas que la Corse est raciste, on ne dira pas que les Corses sont racistes, une bonne fois, il faut bien que ce soit, je le répéterai d'ailleurs tout au cours de cette heure, bien évidemment, mais c'est quand même un sujet très très préoccupant. C'est notre sujet en tout cas du jour, merci pour ces messages, on a commencé par faire un petit peu d'auto-satisfaction, enfin par passer des messages très satisfaisants. Suite à l'émission de vendredi, c'est le long poème sonore de Bruno Carpentier qui vous a plu. Voilà, donc aujourd'hui on part pour la Corse. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la passe, j'y suis, 01 56 40 37 37.
Bonjour, Daniel Mermier, c'est Solange de Clermont-Ferrand. J'ai écouté l'émission d'un collègue à vous ce matin, Interception, sur France Inter. C'était donc à l'occasion des 30 ans de la loi sur l'avortement. Et j'espère que beaucoup, beaucoup de femmes, notamment de très jeunes femmes, ont entendu l'émission parce que elle était vraiment faite avec une très, très grande intelligence. Et je trouve que c'était une petite fenêtre ouverte sur le sens, sur l'humanisme ce matin, et puis sur l'histoire d'un combat qui a débouché, qui a abouti. Et j'avais envie de dire aussi, j'ai 42 ans, que nous les femmes, il faut qu'on reste extrêmement vigilantes, parce que rien n'est acquis. À bientôt, et merci pour vos émissions. Au revoir.
Oui, salut Daniel, ici c'est Jeff le paysan là. Je t'appelle de Loire-Atlantique. Oui, c'est juste pour faire une petite parenthèse là dans la France d'aujourd'hui. Alors donc au mois de novembre, tous les paysans, tous les agriculteurs de France reçoivent un courrier. Ben ce courrier c'est la PAC. Donc j'ai reçu aujourd'hui, j'ai ouvert mon courrier et là j'ai reçu un gros chèque dedans. Ce chèque est de 3000 euros. C'est super, la vie est belle. Je me sens un petit peu là comme une prostituée là qui reçoit son argent de son Mac. Hein, je suis content, j'ai reçu ma paye. Bon, il y aura encore plein de choses à dire sur la PAC, hein, tout ce qui se passe quoi, tout ce qui se passe en Europe. Bon, allez, salut.
Ouais, salut à tous. Eric à Fayence dans le Var. Pour vous indiquer que lundi matin, normalement, les forces de l'ordre seront au Diable Bleu à Nice pour une expulsion manu militari. Et donc, il y a une grosse soirée, une grosse nuit qui est organisée à partir de dimanche soir au Diable Bleu. Donc, n'hésitez pas à venir dimanche soir au Diable Bleu en soutien au collectif des Diables Bleus qui sera malheureusement expulsé dès lundi matin. Donc, pour ceux qui ont l'opportunité, amenez de quoi boire, de quoi manger, bien qu'il y aura de quoi faire sur place, et un duvet pour ceux qui peuvent dormir sur le lieu. Voilà, gros bisous à tous, c'est une belle histoire qui commence, dans la mesure où il y en a une qui finit. Ciao viva, portez-vous bien, à dimanche soir au Diable Bleu.
C'est Daniel Mirmet, là-bas si j'y suis, avec Dila Tebi.
Oui, mais vous, c'est différent.
Flight number 2, arriving from
Là, on quitte la commune d'Ajaccio, en direction de Calvi, par la côte. Et on va passer le col de San Bastian, où c'est le col qui sépare le golfe d'Ajaccio, le golfe de Sagone, on va. Ah, c'est féerique, hein. Avec des montagnes. Pas oublier que la Corse, c'est avant tout une montagne en fait. Hein. C'est une montagne plantée dans la mer, quoi.
Et devant nous,
c'est le mont Gozi en fait. Hein. Tu vois, c'est le mont qui est caché par les nuages, qui domine le village d'Afa en bas et le village de Picharos. Ça plante le décor. Hein. Avec, si tu veux, cette montagne qui forge aussi le caractère du peuple corse. Hein.
C'est-à-dire
la fierté, la susceptibilité aussi. Un caractère forgé par les montagnes aussi. Hein. C'est-à-dire que en Corse, on se livre pas tout de suite, en fait. Hein. On attend de connaître un peu les gens, de voir à qui on a affaire, et ça crée les conditions d'un caractère particulier. Et on est de 250 000 habitants en Corse, c'est rien du tout. Hein. Sur 8700 km², il y a une densité très faible, en fait. Hein. Là, on vient de croiser, tu vois, plusieurs graffitis qui ont été faits il y a...
Là, sur le petit muret, il y avait
le petit muret, au col de San Bastian, marqué Arabie Fort.
À la peinture rose.
À la peinture rose, ça a été effacé, heureusement.
On le voyait encore, là.
Mais on le voyait encore, quand même, hein, tu vois. Donc, imagine les gens qui passent tous les jours, hein, au Maghrébin, Arabie Fort. Et puis, en plus, les gens qui ont écrit ça, face à une chapelle... une petite mesette à un moment donné, tu vois, pratiquement tous les kilomètres il y a marqué Arabie Fort, hein, quand tu regardes bien, c'est régulièrement tagué Arabie Fort.
Attention, la direction met en garde les auditeurs. Cette émission n'est pas objective. En effet, elle va donner la parole aux antiracistes, mais les racistes n'ont pas été invités à s'exprimer. Or, l'objectivité, la véritable objectivité journalistique, déontologique, c'est 50-50. Fer et balance, le même temps pour chaque camp. Donc, cette émission part d'un a priori idéologique, à savoir que le racisme, c'est mal, et c'est même très mal. Or, un préjugé idéologique, c'est mal, c'est très mal. Aussi, pour être objectif, il faudrait entendre les deux camps, afin que l'auditeur, que vous êtes en toute objectivité, se fasse son opinion. La difficulté, c'est de trouver des racistes qui viennent défendre le racisme. Très difficile à trouver malgré tout de nos jours, le raciste sincère qui vient le dire carrément, ouvertement, joyeusement. On n'est plus au beau temps de la guerre de 14-18, par exemple, où les officiers américains protestaient contre la présence de soldats africains noirs dans les hôpitaux militaires. Sans remonter si loin, on sait ce qu'a été l'apartheid un peu partout dans le monde. Apartheid récemment aboli, apparemment. Le racisme, aujourd'hui, se cache, avance masqué, double langage, faux derge, pas très courageux. Il fait faire le boulot par des bandes de gamins, bières et pétards, comme c'est le cas actuellement en Corse. On peut les coffrer, ces petits genoux, mais le racisme reste. J'ai dit le racisme, pas le raciste. Bien sûr, les actes racistes doivent être poursuivis et leurs auteurs punis avec toute la rigueur de la loi. Mais le racisme, comment le punir? Est-ce qu'on peut punir une maladie? Marcher dans la rue en criant « Abat le sida, abat la tuberculose, paludisme dehors, syphilis go home !» Et d'ailleurs, est-il pertinent de comparer le racisme à une maladie, c'est-à-dire une sorte de fatalité, et donc le raciste à un malade qu'il faudrait soigner? Et comment? Et le racisme est-il incurable? Certains le croient. Je crois que ça a toujours existé, que ça existe et que ça existera toujours. C'est ce qu'on pourrait appeler le racisme contre le raciste. Le racisme anti-raciste. Sérieusement, des gens pensent que, par exemple, l'antisémitisme a toujours existé, qu'il existe et qu'il existera toujours. Et puis d'autres dont j'ai la faiblesse de faire partie, pensent qu'il y a des causes à tout cela. Sans doute des causes en partie incurable, mais d'autres sur lesquels nous pouvons peut-être agir. Depuis le temps qu'on l'étudie, ce racisme, ça date pas de l'apparition du grand Le Pen. Depuis bien longtemps, on a essayé de contourner cette tendance que nous avons à vivre les mêmes avec les mêmes, ceux qui ont le même sang. On a, dans notre histoire française, mais pas seulement française, inventé autre chose. C'est ceux qui naissent sur une même terre, qui ont une communauté de destin. La question n'est pas réglée. On n'est pas tous convaincus de cela. On n'est pas tous convertis à cela. Il reste beaucoup d'hommes et de femmes sur cette planète qui pensent que l'essentiel, c'est le sang. Ce qui fait une identité, c'est le sang. C'est ce qu'on pense aussi actuellement en Corse, un peu plus que d'ordinaire. Voilà pourquoi nous partons pour cette île enchantée avec Dilatebi jusqu'à 18h sur France Inter. Là-bas, si j'y suis, oui, mais vous, c'est différent.
Oh, là, on va arriver chez des Maghrébins qui vivent ensemble dans une maison. Enfin, on m'a dit une maison, mais on y arrive. La vieille porte. On m'a dit qu'ils sont de l'autre côté. Donc là, on est à l'intérieur. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes trois ici, là?
Non, nous sommes sept personnes. Sept personnes.
Sept ouvriers.
Oui.
On peut jeter un petit coup d'œil?
Bien sûr.
Ouais. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr.
Donc deux lits, une planche là. En bois qui sépare.
Voilà.
Hop.
Ça, c'est la douche.
Avec les fils qui pendent électriques.
Voilà. Un petit trou, enfin, pour l'écoulement. Et voilà, c'est tout, hein. Voilà, on passe à autre chose. Donc là, c'est moi.
Pas d'armoire, pas juste d'armoire. Un lit, voilà. Une pièce, une chaise. Et les carreaux, ça fait combien de temps que c'est cassé?
Tout ce que je fais le soir, c'est bloquer ça.
Donc vous fermez la... Là, vous avez mis une planche en bois, vous mettez le burin.
Et voilà, ferme. L'hiver, vraiment, il fait froid, quoi. On n'a pas le choix, c'est la misère.
Comment ça, on n'a pas le choix?
On n'a pas le choix, bon, si on cherche, enfin, tenez, enfin, je vous le jure, quoi. J'étais avec mon cousin hier, un jeune comme moi. On a entendu, enfin, que là, enfin, des appartements loués, des studios à louer, tout ça. On était là voir, monsieur, on ne loue pas pour les Arabes. Comme ça et de cette façon. Donc, on est parti, quoi, hein. On n'a pas le choix.
Eh oui, des voix déformées, c'est très rare qu'on fasse ça dans cette émission, mais ils ont supplié qu'on déforme leur voix, surtout qu'ils ne soient pas reconnaissables. Ça se passe dans le sud de la Corse, et vous avez compris, ce sont des gens, des travailleurs immigrés qui sont dans cette maison et qui ont été attaqués, vivent dans un climat de peur, de trouille terrible. Dans la même semaine, ils ont eu une agression avec une bombe contenant de l'acide. Et puis, quelques jours plus tard, ils ont eu un cocktail Molotov qui a été lancé, qui a été lancé contre leur abri.
On fait un tour dehors? Vous montrez un petit
bien
peu
sûr.
Ce qui s'est passé?
Bien sûr.
Ça, là, c'est la toilette.
Une petite cabane en bois. Ça tient avec trois bouts de ficelle, un bout de tôle, en guise de toit. Des planches, des clous partout.
Il n'y a presque plus rien. Presque plus rien.
Vous, c'est ici, on a jeté de l'acide?
Exactement, c'est là. Comme vous voyez la porte d'entrée, morceau de verre par terre, comme vous voyez. Le bidon, vous voyez, il est là, White Spirit. Et à part ce qu'on a jeté, tout ça, hein, vous voyez, enfin encore, il y a des verres là-bas, et sans oublier, enfin, au-dessous, là. C'est ça la Corse, quoi.
Ah, toute la façade est complètement brûlée.
Vous voyez la fenêtre où j'habite, là? En envoyant, bien sûr, la bouteille, et voilà ce qui est arrivé. Hein.
Là, ils l'ont lancé contre la porte, oui. Parce que la porte, elle est toute noire, elle a pris feu, là.
Elle a pris feu, hein, l'autre soir, hein. Et nous, avec le seau, enfin d'eau et tout ça...
Ça a dû faire de sacrées flammes, parce que la maison, elle fait au moins... Il y a quoi? Il y a 10 mètres de haut, là?
Oui, à peu près, il y a 10 mètres de hauteur, oui. Vraiment, il y avait de la flamme de partout, ouais, énorme. Hein. C'était des Marocains qui habitaient en bas. Ils sont déménagés déjà. C'est des vieux. Ils ont peur. Ils sont partis, voilà. Ils étaient deux. C'est des actes racistes. C'était 6 personnes. 6 personnes, c'est des jeunes. On était derrière, lui avec mon cousin, moi, on était derrière, mais ils n'arrêtent pas de lancer enfin les pierres et tout ça. Il faisait nuit, au risque d'aggraver les choses, quoi.
C'est l'hiver, c'est la mèche, comme vous voyez.
Ah, c'est un cocktail Molotov?
Un cocktail Molotov, exactement. Vous avez trouvé le mot. Vous voyez qu'il est brûlé déjà? Et voilà. Le soir, croyez-moi qu'on ne dort pas. Ok, chacun son tour. Toi, tu dors. Moi, je veille un peu, quoi. Chacun son tour. Hein. Au moins que ça s'est allumé, ils ne viennent pas. Ce qu'on fait, hein, tous les soirs. C'est pas la première fois, ça dure. Ça fait un bon moment. Hein. Ça fait deux fois déjà. Pendant une semaine.
Qu'est-ce qu'on peut vous reprocher? Parce qu'apparemment...
Rien à personne. Rien, on est chez nous, on travaille, on bosse, puis ça s'arrête. Hein. On n'emmerde personne. Hein. Et malheureusement, que c'est comme vous voyez, hein. Pas rien faire.
La tête du gognoule, voilà notre destin. Massacrer tous ces crouilles et leurs aguets youpins. Brûler ces arabes, ces êtres inférieurs. Casser ces négros qui empestent la sueur. Vive la France, mort aux immigrés. Sol arabe, on va t'exploser. Vive la France, Ibrahim, tu vas crever.
Pour venir vous voir, ça a été pas simple. Parce que c'est pas écrit en grand, il y a les rideaux de fer, c'est un vrai bunker.
Bah oui, vous savez, on a des menaces. On a déjà eu des attentats. On nous reproche d'en parler en disant que en parlant, il y a une espèce de prosélytisme induit, on attire l'attention et on exagère le phénomène, etc. Mais bon, on ne peut pas se taire non plus. Et c'est un impérieux devoir que de réagir et de se responsabiliser.
Ils ne peuvent pas se taire, elle ne peut pas se taire, elle est très connue à Ajaccio, c'est une grande figure, pas seulement d'Ajaccio mais de la Corse, elle s'appelle Noël Vincenzini et elle représente une association qui s'appelle Ava Basta. Et cette association se bat contre ce qu'on vient d'entendre, cette espèce d'étron sonore qu'on vient d'entendre, qui est un appel vraiment à au racisme, au pogrom, à la violence. Et cette association, ben voilà, à Ajaccio, aux Corses, aux îles d'amour, oui, mais enfin, il faut se planquer dans un bunker si on veut actuellement lutter. Vous trouvez qu'il y a un petit peu trop de racisme, de violence raciste dans cette île. Encore une fois, je le répète pour ceux qui prennent l'émission maintenant, on n'est pas en train de dire que la Corse est raciste, ni que les Corses sont racistes, on est en train de dire qu'il y a une vague de violence en Corse, qui doit évidemment être réprimée, évidemment, mais surtout qui doit être comprise. Pourquoi ? Il ne s'agit pas de l'excuse sociologique, la fameuse excuse sociologique, mais pourquoi cette vague de... Pourquoi y a-t-il plus de racisme en Corse que sur le continent ? Alors, des explications de Noël Vincenzini.
Ce qui a déchaîné un petit peu cet intérêt médiatique, c'est le fait d'abord que le procureur a déclaré qu'il y a eu 30 actes racistes en juin, mais il n'a pas précisé, vous avez des insultes racistes, c'est un acte raciste, les menaces aussi. Bon, c'est pas 30 bombes, je dis non, c'était pas 30 bombes. Il y a eu peut-être une dizaine d'attentats, ce qui est déjà trop. Et ce qui a fait rebondir la chose, c'est les menaces des clandestins. C'est les groupuscules d'extrême droite. Sur le continent, c'est pareil. En France, en Europe, partout. Hein. Vous voyez comment les néo-nazis recommencent à pointer le nez en Allemagne et ailleurs. Et l'antisémitisme qui recommence, les croix gammées, etc. Donc, c'est général. Mais en Corse, donc, nous avons cette poussée de racisme ordinaire, et puis qui a été bien cultivée avec les événements du 11 septembre, et puis aussi la dégradation des conditions sociales des gens, hein, socio-économiques, des difficultés de logement. Je pense que c'est aussi social, ce rejet, ce racisme, parce qu'en plus, ça vous renvoie à votre propre image. La Corse n'est pas un pays riche, il y avait des problèmes. Ils ont été obligés de s'expatrier. La perte des colonies, où il y avait pas mal de Corses, hein. Ils ont été obligés de se replier sur l'île. Il n'y a pas tellement de débouchés, l'économie est à plat. Et il y a ici comme ailleurs, parce que c'est un problème planétaire, le besoin de s'ancrer dans son être, dans son S, comme on dit ici, c'est-à-dire dans son identité, dans ses racines. Donc il y a une période de mutation qui est pénible, qui crée un grand mal-être, mais comme elle est frustrée et mal vécue, elle induit forcément un rejet de l'autre. Elle porte à ça. Et le racisme en Corse, c'est presque plus de la xénophobie. La crainte et on redoute ce qui vient d'ailleurs. Et c'est pour ça que, en plus, si vous voulez, ici, nous sommes un pays de violence. Bon, ce sont de vieilles habitudes. Il y en a peut-être moins qu'au siècle dernier, sûrement. Là où il y a 40 morts cette année, il y en a eu 300 il y a un siècle. Donc, la violence, elle est facilement au bout des sentiments. Mon arrière-arrière-grand-mère était de Rogliano. Mon arrière-arrière-grand-père était de Bonifacio. Mon arrière-grand-mère était de Séville. Mon grand-père est de Tizi Ouzou. Ma mère est d'Ajaccio. Mon père est de Calagouche. Mon cousin Germain vit à Cagliari. Ma belle-sœur est de Paris et vit à Berlin. Ma sœur travaille à Dakar. Et moi, je grandis en Corse. Et comme on est toujours l'étranger de quelqu'un, je dis non au racisme. Et puis, voilà, le slogan aussi que nous avons adopté, que nous répandons beaucoup, ce sont les paroles de Martin Luther King. Ce qui est dangereux, ce ne sont pas les hommes méchants, mais le silence des hommes bons.
Ça, c'est un des slogans d'ici.
Voilà. Voilà. Hein? Si vous voulez, on a écrit à Wabast il y a 18 ans déjà, face à nos problèmes de racisme, en disant bon, qu'il était temps pour les Corses de se responsabiliser par rapport à ce problème.
Est-ce que ça a vraiment commencé il y a 18 ans, 19 ans?
Oh, ça a commencé bien avant. Si vous voulez, il y a chez nous sommes une île, hein, et puis c'est une île avec ses problèmes, mais on est une île de montagnards pour l'essentiel, en Méditerranée, enfin ça fait quand même une certaine singularité, qui a été au confluent de plein de voies maritimes jusqu'à la plus haute antiquité, et qui a été constamment envahie. Donc ce qui vient d'ailleurs, il y a toujours une connotation un petit peu de danger, de... Vous savez, jusqu'à une époque récente, les rivages étaient désertés. La grosse densité de population était en moyenne montagne, et en montagne, ces rivages magnifiques que vous connaissez n'avaient aucune valeur. D'autant qu'il y avait la malaria aussi. Ce n'est que depuis la dernière guerre mondiale qu'il y a eu un bombardement d'été par l'armée américaine qui nous a coupé de ça. Donc il y a toujours une connotation. Par exemple, dans les héritages, on donnait aux filles les bords de mer. Et aux garçons, la montagne et les agglomérations. Mais ben, elles ont pris leur revanche maintenant parce que il y a eu un changement, on peut dire, de civilisation complet. C'est-à-dire que l'intérieur s'est désertifié. Il y a eu une descente sur le bord de mer, sur les petites villes du bord de mer, enfin les petites qui sont devenues plus grosses, comme Bastia, Ajaccio, Porto Vecchio, Bonifacio, etc.
Soy el emigrante qui va a la pedicia. Stradone, la mezza polvericcia, soy un spaesato, così vole vestino, chi tocca i viglioli, un popolo mischino, ma so pronto a stantare, senza la rincorsa. Pascia niente a colpi di suori, a colpi di suori, vengo da se pianure, due usore si strascina, ad una caseta, flore di dalacina. Di un stesso cielo, ma un tanto posto di nida di sedi umani, stringi da un cuore, purghiamoci una mano, purghiamoci una mano, purghiamoci una mano. Urgimmo giù la mano.
Et pourtant il le chante, il m'ouvrine. Cette chanson qu'on vient d'entendre, c'est Les Migrants. Ça raconte exactement le trajet. Alors, on ne sait pas. C'est les migrants. Est-ce que c'est un Corse? Est-ce que c'est un Marocain? Est-ce que c'est un Tunisien? C'est les migrants. C'est la chanson éternelle de l'immigrant. C'est moi l'immigrant qui marche sans fin dans la poussière, là-bas sur le bord d'un chemin. C'est moi le sans-pays au hasard du destin où se perdent des enfants des terres sans lendemain, etc. Et la chanson dit alors, en attendant, puisque nous sommes humains, je vous tends la main, serrons-nous donc la main, etc. C'est des belles chansons. On veut absolument y croire, on veut absolument que ce soit comme ça. C'est pas tout à fait le cas actuellement dans cette douce Corse, pays aux îles d'amour. Pour l'instant, c'est plutôt en train de cogner les récentes arrestations des énergumènes de ce petit clandestini Corsi qui a quand même revendiqué cet attentat, eh bien ça n'a pas suffi ce dimanche 21 novembre, à nouveau des attentats qui était destiné à fêter l'anniversaire de SOS Racisme. Joyeux anniversaire SOS Racisme, per una Corsica pulita, c'est-à-dire pour une Corse propre. On voit que l'histoire n'est pas terminée. Et ça va jusqu'au foot. Évidemment, le foot est une grande affaire majeure et un jeu, et plus qu'un jeu et un enjeu. Et Shaoki Ben Saada, qui est de Bastia, de l'équipe de Bastia, disait dans le Parisien Libéré, quand je marque des buts, je suis corse, mais quand je marque pas de but, je redeviens un arabe. Et bon, là, c'est souriant, parce que c'est souriant, pas toujours, quand même, hein. Il y a un joueur qui s'est fait buter récemment, qui a vu sa voiture mise en miettes, etc. C'est quand même un endroit assez peu caressant si l'on est maghrébin et surtout marocain. On retrouve Noël Vincenzini de Avabasta qui, j'ai oublié de vous dire son âge parce qu'elle a une voix tellement jeune, cette femme. Elle a 77 ans. Elle autorise tout à fait à ce qu'on dise son âge. Et avec Dila, on vous racontera un peu plus son histoire aujourd'hui ou demain. Qu'est-ce qui fonde sa conviction et son engagement. Pour l'instant, elle nous éclaire sur cette vague de racisme dans l'île de Beauté.
Une civilisation, c'est lié à un mode de vie. Ici, jusqu'à une époque récente, c'était une société agro-pastorale et avec une économie quasiment d'auto-subsistance. Ça s'est accéléré à la fin du 19e, au début du 20e, avec le développement de la marine marchande, etc. Moi, j'ai connu, chez ma grand-mère, comment on cultivait le blé sur des pans de montagnes et de collines jusqu'à plus de 1000 mètres, où même l'arrière, c'était trop, il n'arrivait pas, il fallait la pioche pour retourner la terre et ensemencer. Donc, si vous voulez, le prix d'un kilo de farine, par exemple, avec tout le travail que ça demandait, avec des techniques très archaïques, hein, en plus. Après, avec la marine marchande, à l'épicerie du village, ça coûtait 3 sous. Et en prix de travail, c'était énorme, un kilo de farine, vous voyez. Donc, il y a une rupture, quand même, de civilisation. On est tout d'un coup projeté face aux sociétés industrielles, post-industrielles, de consommation, sans passerelle, sans rien, en rupture totale. La vie, c'était une civilisation de village. Les villages qui se désertifient. Et même cette génération qui est descendue sur les villes s'est trouvée complètement paumée parce qu'elle avait l'habitude de la vie de village, c'est-à-dire à dimension humaine. Il disparaît complètement quand ils descendent sur les villes avec un petit appartement, avec la famille nucléaire, alors que c'est la famille élargie dans les villages, les enfants ont cette liberté de l'espace. Donc tout ça a provoqué, je crois, des traumatismes. Et après, leurs enfants, alors, la perte est encore plus grande, la perte des repères, le lien à la civilisation traditionnelle. Donc, il y a des changements qui se sont faits dans un temps assez rapide. Moi, j'ai vu ça. Donc, face à tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Les gens, ils s'accrochent à leurs racines, à la nostalgie de ce qu'ils perdent. Et les nouvelles générations, alors la perte de repères est flagrante. C'est un peu comme les jeunes immigrés, si vous voulez, qui sont en rupture par rapport à leur famille et leur pays d'origine, et pas de valeur de substitution. Les jeunes Corses, ils sont déculturés par rapport à leur culture originelle et sous-culturés par rapport à la dominante. Et ça fait du dégât, je peux vous le dire.
Prenez garde, je suis l'arabe. Détournez vos regards fugitifs, je ne veux plus les voir. Vos yeux sournois en disent bien long, je le vois. Nombreux sont les cerveaux atteints de paranoïa. À mon passage, je sens l'odeur de la rage qui se dégage. Malgré vos tentatives de camouflage, je me revois là, fusillé des yeux. Que faire encore une fois à part maîtriser cette haine éphémère qui s'empare de moi. Mais sur elle, mon peuple prend le pas. Car combien de fois ai-je déjà vécu ce schéma classique? Nous vous sommes antipathiques, pas un nez égal trafic. Mais ce n'est qu'un cas d'extrapolation typique. J'ai bien peur que les valeurs françaises soient induites en erreur. Face à tant de voilés, à tant de recrutés d'ailleurs. L'offense est faite, la potence est prête. La sentence est prononcée, il n'accepte aucune raquette. Encore un, dans notre monde, sur quoi l'on tombe. Lorsqu'on sonde leurs pensées profondes. Même si on dit que je suis si voyant à part entière, je sais qu'entre nous il y aura toujours une frontière. Je suis l'arabe. Vous me reconnaissez, je suis l'arabe.
Je suis Marc Brezia, j'habite en Corse, près d'Ajaccio. J'ai 30 ans et je suis marié avec Samira, que j'aime plus que tout.
C'est toute ma vie.
Et on a un enfant en commun, Antoine, qui a 3 mois. Si tu veux, cette relation amoureuse, c'est aussi au quotidien un combat, c'est aussi un engagement politique. J'avais un engagement, j'étais au Parti communiste avant d'être dans la police. Pour moi, c'est un message de paix et d'amour entre les peuples. Au quotidien, que les gens le veuillent ou non, d'un côté ou de l'autre, je dis Samira, elle est tunisienne, mais elle est corse aussi. Et ça, je crois que c'est un beau message de paix, dans le sens où ça peut faire changer la société corse. C'est-à-dire s'il y a plus de mariages mixtes au sein de la société corse, forcément la société corse elle va s'améliorer, elle va faire en sorte que le racisme n'existe plus.
3 tards, il a 3 tards, Marc. Il est flic, il est corse et il est communiste. Ça fait beaucoup, mais en fait la 4e tare, c'est sa femme, Samira, qui est d'origine tunisienne. Alors évidemment, on rigole, on plaisante. Un couple mixte, comment on fait quand on est corse et qu'on tombe amoureux d'une tunisienne ou d'une femme d'origine tunisienne ou maghrébine? Comment ça se passe en Corse? Ça ne va pas être si facile que ça. C'est la question qu'on s'est posée avec Dila. Et voilà comment on a rencontré, on rencontre aujourd'hui Marc et Samira.
On arrive chez nous là. On va rentrer. Il y a la petite femme qui m'attend avec Antoine.
Mama Corsica, c'est ça qui chante?
C'est une chanson sur la Corse. Hein.
Ah. Le balcon juste au-dessus de la petite plage honnête.
C'est pas l'image de violence, de haine et tout, j'imagine. Hein. Et là, tu es au paradis, on est bien, tu décompresses.
N'allez pas croire tout ce que l'on dit, au fond c'est elle.
les enfants le sang corse.
Jolie cette chanson, hein, on se laisse bercer. Elle ne fait pas de différence quand ses enfants ont le sang corse. C'est joli, des chansons comme ça, la mer, la Corse, pays d'amour, oh Corse, oh île d'amour. Voilà, elle ne fait pas de différence s'ils ont le sang corse. 30 années de nationalisme, même si aujourd'hui beaucoup de nationalistes disent on n'a rien à voir évidemment avec cette vague d'agression raciste, ils le disent sans doute avec la plus grande sincérité. On peut pas s'empêcher de se dire que un nationalisme aussi répétitif n'entraîne pas ce genre de choses, n'entraîne pas quand même un certain sentiment d'exclusion. Ce qui peut expliquer, par exemple, que lors du mariage de Marc et Samira, Marc le Corse et Samira d'origine maghrébine, marocaine, eh bien, à Sartène, c'était le deuxième mariage mixte en 30 ans, à Sartène. Donc, voilà, une rareté.
Vous, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble?
Ça doit faire 3 ans déjà. 3 ans et mariés depuis un an, un peu plus d'un an.
Le 18 octobre, ouais. Ça fait un an.
2003. C'est marié à Sartène.
Sartène?
Ouais, Sartène, dans le village de ma femme. Mmh. C'est vrai qu'elle avait plus de monde là-bas sur Sartène que bon, ça s'est bien passé. On a fait un grand mariage, il y avait 200 personnes. Il y avait toutes traditions, il y avait des musulmans, il y avait des juifs, il y avait des chrétiens. C'était un beau mariage d'amour. Il y avait de tout. On n'a pas fait un mariage religieux parce qu'elle m'a pas imposé, je dirais, l'islam. Donc je tenais pas lui imposer la religion chrétienne. Je pense que c'est bien de faire les choses comme ça. Et donc enfin, on a fait un mariage civil, républicain, laïque, et avec ses parents, mes parents. Il y avait un peu de tout. Il y avait de l'alcool, il y avait du porc, il y avait de la viande halal, il y avait du couscous.
Il y avait de la musique corse, de la musique orientale, il y avait de tout, quoi.
Tout s'est bien passé. J'ai été présenté, en fait, 6 mois avant le mariage. Oui. Ouais.
C'était au mois d'avril, hein, et le mariage, c'était au mois d'octobre, quoi.
C'est bien passé la présentation, il n'y a plus de soucis, hein. Pas du tout.
Même mon père, il a dit, si tu m'avais dit qu'il allait venir, j'aurais pu acheter le pastis.
Waouh. Ah, c'est excellent.
J'ai dit à mon père qu'il ne buvait pas d'alcool et qu'il ne fume pas.
Les parents ne savaient pas que...
C'est-à-dire que c'était un amour caché. C'était un amour caché pour être bien et tranquille tous les deux, quoi. Donc on se voyait et personne n'a découvert quelque chose, quoi. Pendant 2 ans, se fréquenter. Mes parents, ils étaient au courant, mais ils pensaient qu'il habitait à Paris, pas à Ajaccio, quoi. Comme ça, je pouvais le voir quand je voulais et tout. Et on s'est fait choper par mon frère à Bonifacio, quoi. Donc après, je l'ai présenté.
Comment ça s'est passé?
C'est-à-dire qu'on est parti se balader. J'ai fait un couscous, et on est parti faire un pique-nique. Et après, il avait envie d'une glace. On a dit, viens, on va aller à Bonifacio. On est parti se balader à Bonifacio. Et là, en passant, on a rencontré mon frère. Il nous a klaxonné. Et je dis, continue. Après, je dis, non, fais demi-tour, sinon ce soir, je vais me faire tuer. Ouais. Et après, on a fait demi-tour et mon frère, il a dû monter. Donc, je l'ai présenté à Marc. Fais, ah, Marc, tu es revenu de Paris. Ah, mais je suis pas à Paris, moi, je suis à Ajaccio, il lui a dit. Mais Samira m'a dit que tu travaillais à Paris. Donc, après, il a dit, ça rien de le cacher, hein. Après, mon frère, il lui a dit, viens, on est monté à Sartène tous ensemble. Il l'a amené chez lui, donc il a bu un pot et tout. Après, il lui a dit, viens avec moi, je vais t'amener au restaurant où je travaille. Et en fait, il a monté chez mes parents, quoi. Ah. Ça a été la grande surprise pour tout le monde. Et donc, il y a eu la présentation avec tout le monde, quoi.
Compris, c'est ça le résultat. C'est ça le résultat, ça c'est Antoine. Le papa est corse, la maman est d'origine maghrébine, et ça c'est Antoine.
Donc on peut dire que par rapport au droit du sol, il est corse en fait. Parce que plus tard, quand il verra sur les murs ce que tu disais, Rabifort, etc., la question se posera même pas, parce que les enfants qui sont nés ici, scolarisés ici, sont partie intégrante, hein. Ils font partie de la Corse. Hein. Et il y a un proverbe qui dit que c'est la terre corse qui fait les Corses. Ça veut dire que c'est pas le sang qui fait, quoi. C'est la terre corse. Dans le sens où celui qui vit en Corse, qui grandit en Corse, ça crée, si tu veux, les conditions d'une âme corse. L'âme corse, en Corse, ça se dit l'anima gurza.
Par rapport au prénom Antoine,
oui.
Donc le choix, ça a été
On aimait bien Antoine, et puis en plus on s'était mis d'accord. Si c'était une fille, c'était elle qui choisissait. Si c'était moi, c'était moi. Enfin, si c'était un garçon, c'était moi.
Tu n'as pas du tout pensé au ce sera peut-être plus facile pour lui, pour le travail ou...
C'est vrai que je me dis que dans le monde d'aujourd'hui, tel qu'il est fait actuellement, de rejet, de racisme, de difficulté d'arriver à se loger, à trouver un emploi, à mon avis, c'est plus difficile en tant que maghrébin, avec un prénom à consonance maghrébine, de trouver un logement et un travail que s'appeler Antoine ou Marc, c'est sûr, c'est certain. C'est malheureux, mais je pense qu'Antoine aura moins de difficultés pour trouver un logement, un boulot, quoi, parce qu'il s'appelle Antoine.
Ensuite, il faudra voir la tête qu'il a.
Oui, des faciès et tout, ouais, c'est sûr. Mais bon, ça après, ça fera partie de son combat aussi que son père essaiera de lui insuffler.
Ouais. Tu parles le corse ?
Ouais, je parle le corse. Ouais. J'ai passé le corse au baccalauréat. Parce qu'en fait, ma grand-mère, qui a 88 ans, qui a parfaitement accepté le fait que je me marie avec Samira, qui adore Samira, tu vois, et qui a quitté son village pour la première fois, son village corse de Marignane, à l'âge de 18 ans. Donc elle avait jamais quitté son village, quoi. Et 88 ans, elle parle plus corse que français. Parce que tu sais que les anciens, à l'époque, ils parlaient pratiquement que corse. Et la France, si tu veux, a obligé à l'époque les gens en Corse à apprendre le français. Donc ceux qui parlaient corse dans la cour de récréation se faisaient taper sur les doigts. Eh oui, pour le dire. C'est-à-dire que l'arrivée de la culture française, c'est pas faite comme ça sur un coup de doigt. Je veux dire, il y a eu l'école républicaine, il a fallu apprendre le français aux gens, etc. Donc j'ai appris le corse avec ma grand-mère, en fait. Hein. Donc bon, je dis pas que je parle corse couramment, mais moi, j'aime le parler, j'espère qu'Antoine le parlera aussi, quoi.
Sono stata l'orto una mani di buonora, aiutro un nido che dentro c'è duioa, è un nido di gulomba, già tre volte l'aiutro. O gulomba gularata, quant'è longa sanutata. Si c'era mamma famosa in Galilea, cula su bocci più dolci che la mia. E da zita addormentava, ma di dormo na più dea. Cor di mamma e di mi nanna, dormi, dorme, fa la nanna.
C'est la Micheline. Tous les amoureux de la Corse ont reconnu la Micheline de Calvi à Ajaccio, c'est elle. Et on continuera demain cette balade quand même en Corse, même si c'est pour y raconter des choses terribles. C'était un reportage de Dila Tebi. Merci à Marc et Samira, on les retrouvera demain. Noël Vincenzini, Dava Basta, elle aussi. Merci à tous. Plus d'informations à votre disposition sur le site de la base où j'y suis en allant sur franceinter.com, franceinter tout attaché.com. Yann Chouquet, c'est la musique. Raphaël Moutarde, c'est le montage. Pascal Pascariello, qu'est-ce qu'elle fait demain mardi 23 novembre dans le cadre du forum social local. Un débat est organisé avec Leïla Chaïd, Bernard Ravenel, etc. sur le thème de Palestine, quel avenir, avec notamment Michel Siboni de l'JFP. C'est à 20h30 à la salle Hervé, avenue Paul Raoult. 78 130 Les Mureaux. Christophe Imbert, c'est le répondeur, le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37 et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Maintenant, vous allez avoir le droit dans quelques instants à 2 minutes de publicité, après quoi vous retrouverez Frédéric Bonneau et son charivari. À demain, 17h là-bas, si j'y suis. Salut.